Bien. Alors, après avoir étudié le point 4 où nous avons parlé de la quatrième théorie, en l'occurrence le culturalisme, nous allons à présent passer à la cinquième théorie qui est intitulée le culturalisme, le structuralisme, pardon. Autrement dit, Claude Lévi-Strauss et le structuralisme. Je vais demander un peu votre attention parce que ce n'est pas la moins difficile comme théorie. Claude Lévi-Strauss, et notamment sa théorie étant un peu réputée comme assez difficile, en tout cas pour vous les étudiants, je vais essayer d'être un peu plus simple. Voilà. Alors, il convient de rappeler d'abord que l'ethnologie française a connu son plein essor après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, regards et intérêts convergeaient vers le tiers-monde, bien évidemment. Les intérêts politiques et économiques le demandaient, hein, mais également les intérêts culturels. Ainsi, de nombreux chercheurs s'étaient rendus sur le terrain, nous l'avons dit, en Afrique surtout, le continent où les différents peuples et cultures faisaient l'objet de monographies ou d'études thématiques. C'était le cas de la parenté, de l'organisation politique, de l'économie, de la religion, des systèmes symboliques, j'en passe et d'autres, d'une part. À cette recherche de terrain devrait s'ajouter une réflexion sur l'objet et la méthode de l'ethnologie, sur les thèmes nouveaux et sur l'homme lui-même, d'autre part. Ainsi, Claude Lévi-Strauss, promoteur d'un structuralisme à la française, conçoit l'ethnologie comme connaissance de l'homme dans le temps et dans l'espace. Son structuralisme, à lui, est différent du structuro-fonctionnalisme britannique. Ce sera, tout simplement, là, une première orientation de l'ethnologie française d'après-guerre. On peut, à travers la définition de Claude Lévi-Strauss, que Claude Lévi-Strauss donne à l'anthropologie, comprendre la place qu'il occupe dans la pensée ethnologique. Donc, faut-il savoir encore qu'avant lui, qu'avant Claude Lévi-Strauss, la plupart des ethnologues faisaient de l'étude des sociétés différentes l'objet essentiel de leur discipline. Comment fonctionnent ces sociétés? Quelle est leur organisation, leur mode de vie, leur psychologie? Le modèle parfait de cette préoccupation, c'est Malinowski, vous vous en souvenez bien. Bien au contraire, Claude Lévi-Strauss fait de cette étude qu'il appelle fort justement ethnologie un moyen et non une fin. La fin étant la connaissance de l'homme total dans toutes ses dimensions, tant historiques que géographiques. À l'origine, philosophe. L'ethnologie a souvent été pour Claude Lévi-Strauss un détour permettant de retourner à la philosophie et à une réflexion sur l'homme. Hein, une réflexion sur l'homme, son but fondamental étant tout simplement de découvrir des vérités sur l'esprit humain. Mais ce souci philosophique se double d'un souci scientifique. D'ailleurs, il va l'exprimer lui-même. Vous verrez certainement un document qui est prévu à cela où il parle de son... il fait son autobiographie intellectuelle. Il parle un peu de ce qu'il a fait. Bien. Mais dans ses premiers ouvrages, notamment dans le célèbre ouvrage « Race et histoire », Claude Lévi-Strauss souligne la diversité, la spécificité des cultures qui pouvait conduire à une observation morcelante et morcelée. Or, pour lui, toute science doit unifier, découvrir des règles universelles. En sociologie, le relativisme culturel, dont nous parlerons un peu plus tard, le relativisme culturel s'oppose à l'universalisme scientifique. Ainsi, Claude Lévi-Strauss va postuler que les différences entre les sociétés sont complémentaires, bien que ces différences existent et que les cultures soient spécifiques. L'anthropologie sera donc la science des différences complémentaires, cherchant l'universel dans ce qu'il y a de caractéristique dans les sociétés. Donc ça, c'est quand même intéressant, ce point de vue-là. Donc, ce qu'il y a, je disais, il cherche l'universel dans les caractéristiques communes de toutes les sociétés, dans la permanence chez les individus de structures mentales communes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de permanent chez les individus, en tout cas dans leur structure mentale commune? Que l'on soit pygmée, que l'on soit papou, que l'on soit indien, que l'on soit inuit, qu'est-ce qu'il y a dans leur structure mentale qui soit permanent? Voilà donc qui va nous amener à parler d'abord du concept de structure. C'est important quand même de définir ce concept. La structure, pour Claude Lévi-Strauss, est un type de formalisation qui s'adapte à un contenu varié. Il convient de la distinguer des relations sociales, qui sont des matières premières employées pour la construction des modèles, qui rendent, ma foi, manifeste la structure sociale elle-même. Toute structure revêt un caractère de système, en ce qu'il y a prédominance du tout, idée de totalité, sur les comportements et prédominance également des rapports sur les termes qu'ils unissent. Et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss précise que comprendre le sens d'un terme, c'est le permuter dans tous ces contextes. Pour lui, la structure est un modèle, la représentation formelle d'un groupe de relations, exemple la parenté, les mythes. Plus précisément, une structure est un système de relations suffisamment éloigné de l'objet que l'on étudie pour que nous puissions le retrouver dans des objets différents. Alors, je pense que ceci dit, on peut parler maintenant de la théorie, le structuralisme. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette théorie? Eh bien, retenons tout simplement que le fondement de la pensée de Claude Lévi-Strauss, c'est qu'au-delà du rationnel, de la logique de l'organisation sociale, des pratiques et du vécu des sociétés, au-delà de leurs règles, qui sont différentes selon les lieux, naturellement, il y a quelque chose de commun, quelque chose qu'on retrouve chez l'homme, quelle que soit son origine et sa culture. Et ce quelque chose de commun, c'est l'inconscient collectif de l'esprit humain. Cet inconscient collectif de l'esprit humain qui se nourrit des mêmes images, des mêmes symboles et des mêmes motivations. L'explication ici est donc plus psychologique que sociologique. Bon, vous le conviendrez, vous en conviendrez avec moi. Elle réside dans la psychologie collective des groupes. Alors, c'est dans son ouvrage célèbre aussi, Triste Tropique, dont vous avez certainement entendu parler, que Claude Lévi-Strauss, pour la première fois, souligne le rôle de l'inconscient collectif. Il a appris à opposer le rationnel à l'irrationnel l'intellectuel à l'affectif, le logique au prélogique. Mais ce qu'il en retient surtout, c'est qu'au-delà du rationnel, il existe une catégorie plus importante et plus, je dirais, valable, plus valable que celle, c'est celle du signifiant. Cette catégorie-là, c'est celle du signifiant, qui est la plus grande manière d'être rationnel. Claude Lévi-Strauss pense alors que ce sont les, je dirais, les pratiques les moins rationnelles qui sont les plus signifiantes. Autrement dit, la réalité de l'objet ne doit pas être recherchée dans ce qu'il est ou dans ce qui est, comment dirais-je, je voulais dire, elle ne doit pas être cherchée plutôt dans ce qui est le plus manifeste, mais dans le subjectif. Dans le subjectif, ce qui n'apparaît pas véritablement, ce qui est en dessous. Hein, ce qui est en dessous. C'est là qu'il faut chercher cette réalité-là. C'est là que Lévi-Strauss fait intervenir d'ailleurs la référence à la géologie. Hein. Alors, que dit-il? Eh bien, il compare la réalité à un paysage. Un paysage qui, à l'image d'un grand désordre, avec ses parois abruptes, ses éboulements, ses broussailles, ses cultures. Or, le plus important, c'est ce qui a déterminé ce paysage. C'est le soubassement géologique. Hein? La différence dans la nature des roches. Hein? C'est cela qui va témoigner, par exemple, deux époques géologiques différentes qui se sont succédées et qui auront, évidemment, plus d'importance pour l'explication de l'ensemble apparent et manifeste de ce paysage. Il convient également de rappeler ici que c'est à partir du domaine de la parenté, parce qu'il a beaucoup étudié la parenté, et Claude Lévi-Strauss, c'est à partir de ce domaine que son structuralisme va se constituer. Pour lui, Claude Lévi-Strauss, j'entends, la parenté est un langage qui ne peut être compris en portant l'analyse au niveau des termes le père, le fils, l'oncle maternel dans une société matrilinéaire naturellement, hein, encore moins au niveau des sentiments. Parce que les sentiments peuvent animer les différents membres de la famille aussi. Alors, c'est au niveau donc des relations entre ces termes, hein, c'est au niveau des relations entre ces termes régis par des règles d'échange analogues aux lois syntaxiques de la langue qu'il leur est, comment dirais-je, qu'il faut tout placer. Qu'il faut placer le raisonnement. Hein. Bref, tout le programme et toute la démarche du structuralisme de Claude Lévi-Strauss sont, pour ainsi dire, contenus dans ces deux textes. Lesquels? Les suivantes, je veux dire. Premièrement, l'existence d'un certain nombre de matériaux culturels toujours identiques qui, comme les cartes ou les éléments d'un kaléidoscope, peuvent être qualifiés d'invariants. Deuxièmement, les différentes structurations possibles de ces matériaux, c'est-à-dire les manières dont ils s'organisent entre eux lorsque l'on passe, par exemple, d'une culture à une autre, qui ne sont pas en nombre illimité. Hein, ces matériaux qui ne sont pas en nombre limité, car il s'agit de les comprendre comme étant commandés par ce que Claude Lévi-Strauss appelle lui-même les lois universelles qui régissent les activités inconscientes de l'esprit. Il s'agit encore pour Claude Lévi-Strauss, de mieux rendre compte des particularismes culturels et d'établir l'unité intellectuelle de l'esprit humain.